France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
On dit que notre Cerrado est le château d'eau du pays. Les grands fleuves qu'on a au Brésil naissent dans ces régions du Cerrado.
Nous connaissons l'historique de la réduction des nappes phréatiques. 10 cm en moins par an durant 50 ans de monoculture, nous avons au total une réduction de 5 mètres des nappes phréatiques. Alors que l'on trouvait de l'eau dans les portions les plus superficielles du sol, de nos jours il faut creuser très profond pour en trouver.
L'eau a été privatisée. C'était un bien commun et il a été monétisé. Les gens ont commencé à payer des camions-citernes. Donc, on assiste à un processus qui viole un droit que les communautés ont toujours eu, l'accès à l'eau.
L'Union européenne repousse de nouveau l'échéance. Nous pourrons toujours consommer l'an prochain des produits ayant contribué à la déforestation ou à la dégradation des forêts. Le règlement européen contre la déforestation importée ne répondra de toute façon qu'à une partie du problème. S'il mentionne le soja, le cacao, l'huile de palme ou le papier imprimé, il exclut les activités minières et met de côté un grand nombre de forêts. L'Amazonie doit en bénéficier, mais pas le Cerrado. Pourtant, cette savane tropicale du centre du Brésil, qui recouvre un cinquième du pays, disparaît plus vite que l'Amazonie. Cette région, qualifiée de château d'eau du pays, a déjà perdu la moitié de sa végétation naturelle, remplacée par du soja et du maïs qui nourrissent nos bœufs, ou du coton que l'on retrouve dans nos t-shirts. Dans la vallée du Jequitinhonha, au nord de l'état du Minas Gerais, une grande partie du Cerrado a été déboisée pour laisser place à des monocultures d'eucalyptus utiles à la fabrication d'acier. Ces monocultures assèchent les chapadas, plateaux particulièrement riches en biodiversité, et appauvrissent de nombreux habitants privés de leurs activités traditionnelles. La région, riche en lithium, voit par ailleurs se préparer de nombreux projets d'extraction minière. Face à la déforestation, des communautés rurales veulent faire respecter leurs droits. Défendant les richesses naturelles et culturelles de leur région, elles veulent montrer qu'il est possible de développer des modèles économiques respectueux de l'environnement. Brésil, les gardiens du Cerrado inventent un futur durable. C'est un reportage signé Fanny Brunval. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Vous êtes allée dans des quilombos, des communautés rurales fondées par des esclaves fugitifs. Qu'est-ce que vous retenez, vous personnellement, Fanny, de cette rencontre avec les quilombola, les habitants des quilombos ?
Ce que je retiens, c'est la richesse de l'engagement associatif. De nombreuses personnes portent des rêves collectifs pour l'Alto Jequitinhonha, cette région marquée par l'histoire coloniale. Malgré la déforestation, l'assèchement de la vallée et le manque d'opportunités d'emploi, ses habitants en sont convaincus, des alternatives existent et doivent être défendues. J'aimerais vous citer quelques personnes à l'optimisme communicatif. Elles ont contribué à ce que je réalise ce reportage, même si on ne va pas les entendre. Il y a Rodrigo, guide touristique qui m'a donné le contact de Quilombola. Il est revenu vivre à Minas Novas malgré le manque d'emploi. Il enchaîne les activités et coordonne l'événement Festivalé, qui réunit les cultures populaires de la vallée de Jequitinhonha, présenté comme un berceau de mémoire, de créativité et de résistance. Il y a Summer, comédien passé à la télé Globo ainsi qu'à la célèbre Berlinale, festival de cinéma en Allemagne. Il est aussi revenu à Minas Novas en tant que producteur culturel. Il œuvre pour la transmission des arts traditionnels de matrice africaine. Il y a également Jusilène, élue au secrétariat à la culture, au tourisme et au patrimoine culturel de Minas Novas. Elle contribue activement à trouver des fonds pour construire un espace de tissage et de confection d'habits dans le quilombo Macuco que nous allons bientôt visiter. Sa sœur Joussara, multi-entrepreneuse dans les domaines du cinéma et de la mode, a voyagé au Festival de Cannes cette année pour représenter le film « Les veuves des maris vivants » qui compte l'histoire des femmes de la région, bâtisseuses d'alternatives. Maintenant, quand je consomme des produits issus de la déforestation, ce sont leurs visages qui m'apparaissent.
Merci Fanny. Notre invité se trouve au Brésil et même à Brasilia, qui est située en plein cœur du Cerrado. Bonjour Stéphanie Nuzzati.
Oui, bonjour.
Maître de conférence à l'Université de Brasilia, au Centre de Développement Durable, votre spécialité c'est la géographie humaine et l'écologie politique, et vous comptez notamment parmi vos étudiants des élèves issus de communautés traditionnelles. Je vous propose, pour commencer, d'écouter le reportage de Fanny. Il commence dans le quilombo Macuco, en quête d'autonomie alimentaire.
Ici, c'est Macuco.
Ma mère habite juste là. Tu allais me poser une question.
J'ai vu ce panneau indiquant le circuit des pierres précieuses. Il passe dans Makuko ?
Il passe dans plusieurs parties de la vallée du Jequitinhonha. S'il se nomme circuit des pierres précieuses, c'est pour parler de culture. Ce n'est pas à propos de diamants. Pierre précieuse signifie ici culture précieuse.
Raquel, 26 ans, conseillère en protection de l'enfance, est née dans le Quilombo Makuko. Accompagnée de son fils Lucas et de leur chien Estourch, elle me présente cette communauté fondée au 19e siècle par des esclaves fugitifs. Aujourd'hui, une trentaine de maisons la composent et les habitants se considèrent comme des résistants. Malgré la déforestation du Cerrado brésilien, ils maintiennent une agriculture diversifiée, source d'autonomie alimentaire.
Ici, les habitants viennent décortiquer le manioc. Il y a une machine pour chaque procédé. Celle pour le moudre, la presse pour en retirer l'eau, le four qui permet de le griller et en faire de la farine.
Tout le monde peut les utiliser quand il le souhaite ?
Oui, n'importe qui a du manioc. Il suffit de prévenir, l'espace est libre.
Et qui organise et s'occupe du lieu ?
Généralement, le président en est responsable. En ce moment, ma mère est vice-présidente et la mère de Jusilieni est présidente. Ce sont elles les responsables de l'organisation de la communauté.
Domingo, 72 ans, fait partie des agriculteurs du Quilombo. Autour de sa maison, il plante des haricots rouges, du manioc, du coton ou encore du roucou, une graine rouge-orangée, et tout cela sans intrant chimique.
Comment tu prends soin de la terre ?
Ici, on travaille à la pioche. Je n'ai jamais passé un tracteur.
Tout est à la main.
Allons par ici pour éviter les buissons.
Vas-y, on te suit. Ici, ce sont de jeunes pousses de haricots.
Je les ai plantées lundi dernier.
Il y a une partie qu'on mange et on en garde un peu pour le replanter une autre année.
Celui qu'on vient de planter, c'est le haricot de la période sèche. Le prochain que nous allons planter, ce sera le haricot des eaux en décembre-janvier. Il y a deux ans, il n'a pas plu assez. On a dû acheter des haricots au supermarché.
Tu as aimé ?
Oui.
Difficile d'imaginer un dessert aux pâtes de vache.
Oui, c'est étonnant. J'ai goûté le mokoto, une gelée au goût légèrement fumé, spécialité locale, à base de pâtes de vache. Nous sommes dans la cuisine de Maria, la mère de Raquel, également vice-présidente de la communauté. Elle me raconte l'histoire derrière leur jardin, une histoire de résistance.
Mon arrière-grand-mère a été capturée dans la forêt avec un cheval. Elle était autochtone, c'était pour la marier à un esclave et générer une famille. Il leur faisait faire ce travail de folie et les marier pour produire de la force de travail. Elle fut l'une de ceux qui réussirent à s'enfuir avec son mari. Il est bon de raconter cette histoire aux jeunes. Pourquoi parlons-nous de résistance ? Notre résistance à nous, c'est de ne pas avoir voulu nous en aller. Nous ne sommes pas partis ailleurs en quête d'une vie meilleure. Nous résistons ici. C'est pour cela que nous nous considérons comme des résistants. Nous tentons aujourd'hui de donner une éducation à nos enfants, contrairement à moi qui n'ai pas fait d'études. Rien que ça constitue une résistance. On tente d'y envoyer les enfants, y compris pour leur raconter notre histoire. Cela nécessite d'étudier.
Il s'agit de ne pas abandonner, même avec les difficultés.
En plus de ses bananiers, de ses pieds de café et de maïs, ou encore de ses orangers, Maria cultive une serre remplie de concombres, de salades, de courgettes et d'autres légumes. Et à propos de l'eau, tu m'avais dit qu'il faut y faire attention car il y en a peu dans la communauté. Vous devez en limiter l'usage ?
Oui, c'est ça, on limite l'eau parce qu'on n'en a pas à volonté. Il y a un puits, tout comme dans la partie basse de Makuko où nous sommes allés tout à l'heure. Dans notre partie, le puits alimente notre maison, celle de mon frère, celle de mon oncle et celle de Lévi qui a amené la gelée. Cela représente moins de personnes que pour le puits d'en bas.
L'un dispose de plus d'eau que l'autre ?
Oui, c'est ça, ici, il nous permet d'avoir un peu plus d'eau. Comme là-bas, il y a plus de monde pour le même puits, ils ne peuvent pas cultiver beaucoup de légumes. Ici, nous pouvons en produire, mais même comme ça, il faut une consommation réduite.
Maria et son mari André vendent une partie de leur production au marché de Minas Novas, la municipalité à laquelle le quilombo Macuco appartient. De quoi leur assurer un revenu, comme le font de nombreuses familles dans les quilombos ainsi que dans les autres communautés rurales du Cerrado. Mais l'eau se raréfie, la faute au dérèglement climatique ainsi qu'à la déforestation des chapadas, ces plateaux qui ont été presque totalement recouverts de monocultures d'eucalyptus. Pour les habitants des quilombos, résidant surtout dans les zones en contrebas qu'on appelle les grotas, il n'est pas question de baisser les bras. Une association locale, le CAV, a organisé une semaine de rencontres sur l'avenir des chapadas.
Hey, bon dia!
Au petit matin, un vendredi, une quarantaine d'habitants se sont rassemblés dans le district du quilombo Campo Buriti. Le temps d'un café sous les arbres, ils plongent dans leurs souvenirs.
On n'avait pas la connaissance, on pensait « waouh, quelle entreprise impressionnante ». Écoute, pour que tu te rendes compte, on était des chasseurs. Moi et son père, on chassait ensemble. On chassait juste le dimanche. Il nous fallait quelquefois 3 ou 4 dimanches pour chasser un petit cerf. Il fallait être très malin. La première semaine qu'ils ont déforesté, chez la propriétaire de l'Agua Seca là-bas, un dimanche, nous sommes sortis. Ce n'était que le début. Il se crée un chemin. Tiens-toi bien, on m'a pris pour un menteur. Je n'avais jamais vu de catitou. J'en ai vu 7, un cerf, un tatou et un lézard géant, juste parce qu'ils avaient mis les engins en marche.
Tout le monde chassait. Aujourd'hui, il y a peu de chasseurs, il n'y a plus d'animaux.
Tous les animaux sont morts.
Ils ont déforesté, tout est mort.
Dis-moi, Neko, à quelle époque l'entreprise est arrivée ici ?
En 1973.
Avant que l'entreprise n'arrive, les gens qui vivaient dans les grotas, dans les parties basses, bénéficiaient de cette terre, la chapada. C'était une terre de bien commun. Ceux qui étaient dans les grotas venaient là pour cueillir des fruits. Piqui, jacquier, noix de cajou sauvage, jatoba, gravata, mangue bejou. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ?
Des bananes.
Tous les fruits du Cerrado, ils étaient là, dans les chapadas. Ces communautés autour des chapadas, elles cueillaient les fruits et les amenaient dans d'autres villes pour les vendre. Neko lui-même l'a beaucoup fait. Le peuple survivait comme ça.
Et aujourd'hui, ce n'est plus possible.
Non, ce n'est plus possible.
Non, ce n'est plus possible.
Les terres communes ont été cédées à l'époque de la dictature militaire. Aujourd'hui, l'entreprise Aperam en exploite la plus grande partie. Cette société luxembourgeoise, également implantée en France, cultive et fait brûler les eucalyptus comme combustible de ses usines de production d'acier. L'entreprise vend son acier surtout en Europe et se présente comme un champion de l'environnement. Elle défend une source d'énergie renouvelable et propre, qui lui permet même la vente de crédit carbone grâce à sa production de biochar, un type de charbon faisant office de puits de carbone. Mais l'impact sur la ressource en eau est considérable. Des chercheurs de l'Université fédérale du Minas Gerais ainsi que de l'Institut fédéral du Nord du Minas sont venus expliquer à quel point la région s'est asséchée, principalement à cause de la monoculture d'eucalyptus, selon eux. Avant l'exposé, une chanson de Verono, un artiste de la région, emplit la salle. Le refrain scande « Vallée qui vaut la peine de chanter. Vallée qui vaut la peine de vivre. Vallée du Jequitinhonha. Vallée, je t'aime. »
Nous connaissons l'historique de la réduction des nappes phréatiques. Regardez. 10 cm en moins par an durant 50 ans de monoculture, nous avons au total une réduction de 5 mètres des nappes phréatiques. Alors que l'on trouvait de l'eau dans les portions les plus superficielles du sol, de nos jours, il faut creuser très profond pour en trouver.
C'est l'exemple que Donna Faustina a donné à propos de Campo Alegre. Ils n'ont pas trouvé d'eau.
En conséquence de cela, on observe un assèchement colossal des sources d'eau naturelles qui existaient dans notre région. Cette perte au cours des années, pendant 45 ans de notre étude, même s'il y a 50 ans de monoculture, représente 135 milliards de litres d'eau. Pour rendre cette eau, il faudrait construire 183 000 citernes à dalles. C'est un comparatif pour vous donner une idée de l'ampleur de l'eau perdue au cours de ces années de monoculture. Et cela n'a pas toujours été ainsi. Avant, les chapadas accomplissaient leur rôle de recharge de l'eau souterraine, de recharge des sources de la région. Parfois, l'entreprise irrigue les eucalyptus et refroidit ses fours au mois de septembre et octobre, qui sont ceux où les habitants ont le plus besoin d'eau. Donc pendant que les habitants sont alimentés par des camions-citernes, l'entreprise prend de l'eau pour alimenter ses jeunes eucalyptus et refroidir ses fours. Cela crée une inégalité frappante.
Que chama a atenção.
E o que que essa tomada de terra e água? Nossa, Deus.
Que signifie cette consommation de terre et d'eau? C'est un projet de développement qui a exproprié les terres et les eaux des communautés et de la municipalité. L'eau a été privatisée. C'était un bien commun et il a été monétisé. Les gens ont commencé à payer des camions-citernes. Donc, on assiste à un processus qui viole un droit que les communautés ont toujours eu, l'accès à l'eau. Cela viole un ensemble de leurs droits et viole leurs possibilités de développement. Chaque agriculteur, en agriculture familiale, génère 5 emplois à partir de 1 hectare de terre. L'entreprise de plantation d'eucalyptus a besoin de 125 hectares pour générer un emploi. Donc, quand on prend les données et qu'on les met dans la balance, l'entreprise a-t-elle créé de l'emploi? Non. Elle a pris les terres, et quand elle prend les terres de l'agriculture familiale, elle prend les emplois et le travail généré par l'agriculture familiale.
Des habitants accusent aussi les monocultures d'avoir empoisonné avec des pesticides des communautés voisines. Cependant, sur ce sujet, les études manquent. Contactée, Aperam affirme qu'elle respecte les normes environnementales de gestion des forêts du label FSC et que la baisse des nappes phréatiques ne reflète pas le contexte actuel d'utilisation des terres. Cette fois-ci, c'est une chanson d'amour, Jardim da Fantasia, de Paulinho Pedrazul, que la chanteuse entonne. Ce qui relie les habitants lors de cette rencontre associative, c'est bien l'attachement à leur chapadas, au cœur du Cerrado. Un des chercheurs m'explique l'importance de ce biome qui recouvre un cinquième du Brésil.
On dit que notre Cerrado est le château d'eau du pays. Les grands fleuves qu'on a au Brésil naissent dans ces régions du Cerrado. Le Cerrado n'est pas considéré comme une région sèche. Tu devrais lire un livre de Guimarães Rosa.
Qui ?
Guimarães Rosa.
Guimarães Rosa. Il compte un peu cette diversité, cette richesse et cette beauté du Cerrado. Il y a plus de gens qui dépendent des fleuves du Cerrado que de ceux de l'Amazonie.
Le CAV, l'association qui a organisé la rencontre, m'a demandé de couper mon micro durant la partie des discussions consacrée à l'élaboration collective de stratégies de lutte. En voiture, son président Valmir m'explique pourquoi.
L'entreprise est très puissante. Elle ne doit pas connaître exactement la teneur de nos discussions. Cela représenterait une menace pour nous.
Vraiment, elle peut...
Elle va tenter de rallier des leaders, elle va tenter de démonter nos arguments. Elle anticipe, elle a beaucoup d'argent, beaucoup d'influence. Elle a les meilleurs avocats et des professionnels de nombreux domaines qui travaillent dans tous les segments de la société. Nous n'avons pas cette capacité.
Vos actions peuvent menacer ces entreprises ?
Oui. Par exemple, nous remettons en question leur FSC.
Le label ?
de gestion forestière. Nous avons réussi à faire tomber une entreprise qui réalisait la certification pour eux. On a déjà gagné. Nous agissons dans la perspective de sensibiliser les communautés, par exemple. Avoir l'opinion publique contre eux est mauvais pour eux. Pour le peu que nous sommes en termes de pouvoir, même comme cela, nous représentons une menace.
Représentant le savoir des peuples et communautés traditionnelles de notre municipalité. Représentant le travail de toutes les communautés, sans plus attendre, nous allons recevoir la banda de Itaquara de la communauté de Bemposta avec beaucoup de joie et d'entrain.
Nous sommes à l'ouverture de la réunion municipale de Minas Novas dédiée aux questions sociales. Les musiciens de la banda de Itaquara, adolescents et plus âgés, jouent du tambour et de la flûte. L'un d'eux porte un costume de paille. Ce matin, un représentant du Ministerio Público, un équivalent du procureur de la République, est venu rappeler les droits des communautés. C'est une course contre la montre. Le sous-sol de l'Alto Jequitinhonha présente la plus grande réserve brésilienne de lithium. Cet or blanc essentiel aux batteries de téléphone et de voitures électriques, au cœur de la transition écologique. Une entreprise canadienne, Sigma Lithium, exploite déjà une mine à Araçuaï, à 2 heures de route. Et de multiples autres projets sont en préparation. Problème, près de 90% des quilombos n'ont pas été reconnus dans le pays et pourraient par conséquent être expulsés.
Nous travaillons avec les communautés impactées par de grands projets. Qu'il s'agisse de l'exploitation minière, des barrages hydroélectriques ou des plantations d'eucalyptus. Nous avons un rôle à jouer pour les aider. Ici, dans le Jequitinhonha, nous travaillons beaucoup avec les communautés affectées par l'exploitation du lithium, qui arrive très vite ici. Il y a des droits garantis par la Constitution fédérale, qui protègent ces communautés traditionnelles, n'est-ce pas ? Nous pouvons citer les articles 215 et 216 de la Constitution fédérale qui reconnaissent les communautés traditionnelles comme un patrimoine historique et culturel du Brésil. Nous parlons ici de droits conquis il y a longtemps, au prix de longs combats et d'efforts considérables de la part de vos ancêtres. Si vous bénéficiez aujourd'hui de certains droits spécifiques garantis par la Constitution, comme celui que j'ai mentionné, c'est une tentative de l'État brésilien de réparer un crime qu'il a commis, près de 4 siècles d'esclavage dans notre pays. Je dis souvent que les droits sont beaux sur le papier, mais pour qu'ils deviennent concrets dans la vie des communautés, nous devons retrousser nos manches et nous battre.
Et alors, où peut-on constater ces droits ? Pourquoi ce peuple si guerrier, si battant ? Pourquoi ce peuple n'a jusqu'ici pas pu affronter cette monoculture d'eucalyptus ? Pourquoi est-il encore en train de secouer la tête devant les monocultures ? Il y en a assez du racisme environnemental.
Exactement.
L'exaspération des habitants reflète le niveau de difficulté pour faire reconnaître leurs droits. La reconnaissance des terres quilombola passe aujourd'hui par un travail d'archives parfois ardu, les communautés devant apporter des preuves historiques de leur installation. Le maire conclut la séance avec un message d'espoir en demi-teinte.
Quand je vous vois parler d'eucalyptus, par exemple, aujourd'hui, c'est devenu, désolé du mot, une drogue dans la région. Cela va des petits aux grands producteurs. Même lentement, nous allons réussir un jour à inverser cette situation. Je ne sais pas quand, Dieu seul le sait.
Não é porque nós não queremos o plantio.
Ce n'est pas que nous ne voulons pas de plantation d'eucalyptus, c'est que la plantation détruit notre santé, notre éducation, notre environnement et surtout les eaux.
Face aux eucalyptus et aux mines de lithium, il faut imaginer un autre futur. Un futur qui préserve la santé, l'éducation, l'environnement et les eaux. Ces piliers cités par Rosaria Ribeiro da Rocha Costa, la représentante des quilombos de la vallée du Jequitinhonha. Les quilombos ainsi que d'autres communautés traditionnelles et rurales de la région défendent justement des alternatives.
Je suis belle.
Je suis belle.
Nous parlons pour nous-mêmes. Quand je dis « je suis », faites-vous un câlin. Commençons doucement.
Les femmes sont aux avant-postes de ces alternatives. Historiquement, dans la vallée du Jequitinhonha, les hommes partaient plusieurs mois travailler dans des champs de café ou de canne, tandis que les femmes restaient s'occuper des terres. On les a même surnommées les veuves des maris vivants. C'était une nécessité dans une région considérée comme l'une des plus pauvres du Brésil, avec un revenu par habitant 5 fois inférieur à la moyenne nationale. Hommes et femmes s'en vont encore, mais les départs sont généralement moins longs grâce à des sources de revenus qui se sont diversifiées, ainsi qu'à certaines aides rétablies par le président Lula da Silva. Bienvenue à la rencontre des femmes leaders de la vallée. Une journée organisée dans le cadre de la semaine des Chapadas, coordonnée par l'association CAVE. La chercheuse Ivana Cristina Lovo, de l'Université fédérale des vallées du Jequitinhonha et de Mucuri, est venue présenter son travail sur la valeur économique du travail des femmes.
Il y a encore des femmes qui pensent qu'elles n'ont pas de valeur. On a fait un projet dans certaines communautés. C'était un défi pour elles, celui de noter tout ce qu'elles produisaient dans leur jardin et utilisaient dans leur maison. Pour manger, par exemple, elles devaient noter ce qu'elles donnent ou échangent avec leurs voisins ou les parents, ce qu'elles amènent au marché pour vendre. Ensuite, on a fait la somme de ce qu'elles ont consigné. Cela valait 2, 3, 5 reais le kilo de manioc, le pied de salade, 10, les 10 kiabos cueillis. À la fin, on leur a rendu le résultat avec les valeurs correspondantes. Et là, des femmes qui restaient seulement à la maison se sont rendues compte. Leur travail avait donné 2000 reais par mois. Elles ne percevaient pas cet argent, mais cela représentait tout ce qu'elles cueillaient et produisaient. Elles ouvraient les yeux. Tout ça. Et ce n'est que ce qu'elles avaient réussi à noter, parce que ce n'est pas facile de noter tous les jours. Il y a une richesse générée par les femmes, dans vos mains, tous les jours. Ceci est invisible, mais doit sortir de l'invisible. Il est nécessaire de faire de la politique, parce qu'on va voir que le développement, ce n'est pas juste le fait qu'une entreprise vienne, tire la vie ou tire l'eau. Le mode de vie que vous avez est en vérité le mode de vie qui soutient le monde. Donc pour cela, échangeons nos expériences.
Pour l'ONU Femmes, une organisation de l'ONU visant à défendre les droits des femmes, ces carnets de production sont une révolution silencieuse qui révèle l'ampleur et la valeur du travail des femmes. Une expérience similaire a été menée en 2020 par le Fonds international de développement agricole, une agence de l'ONU, dans plusieurs régions du Brésil, dont le Cerrado. En un semestre, les plus de 800 participantes avaient noté 1228 types de produits différents, surtout des aliments d'origine animale et végétale, et sur 1,4 million de reais produits par les agricultrices, soit près de 230 000 euros, 41% de la valeur était non monétaire, donc invisible, aux yeux d'un grand nombre de personnes. Cette chanson, c'est un appel pour que des groupes viennent présenter leurs réflexions. Les femmes ont discuté autour de 4 ateliers thématiques sur des défis, comme celui d'augmenter la participation des femmes dans les débats politiques. Des victoires sont possibles, insiste l'animatrice. Elle donne l'exemple de la création de l'école agricole familiale Veredinha, ou EFAV, une école d'agroécologie formant 81 jeunes en alternance avec le lycée.
Le parcours de la création de l'EFAV, il montre le chemin par lequel on peut avoir un impact politique, revendiquer des politiques publiques. Pour créer l'EFAV, il a fallu une organisation avec une grande cohésion, avec un groupe de base qui a fait des recherches, s'est organisé, a créé l'EFAV.
Mais c'est exigeant, non? Et les femmes ont besoin de ce temps.
Mais cela fait beaucoup. Les femmes ont besoin de ce temps également pour elles, pour prendre soin d'elles, de leur santé mentale, de leurs sentiments, et parfois pour ne rien faire.
Bonjour à tous, j'ai amené un poème que j'ai écrit. Je vais vous le lire. Il s'appelle « La force des femmes leaders ». Dans cette terre si belle où le soleil se lève et la graine germe, la lutte paysanne commence. Nous ne pouvons pas oublier la force féminine qui se manifeste même avant l'aube. Qu'elle soit mère, professeure ou travailleuse rurale, toutes ont une valeur inestimable. De la mère nature vient son alimentation, du cerrado ou bien de la plantation, que ce soit de l'eau cristalline ou des fruits sucrés. De la terre brute viennent les poupées et pots en céramique les plus beaux. Femme qui lutte pour son petit refuge, malgré tant d'obstacles, poursuit son chemin avec amour, lutte et affection.
Merci Maryse.
Je crois qu'on ne peut pas terminer sans lire le panneau, là-bas, en haut, à propos de la mère nature, n'est-ce pas ?
Lisons-le ensemble, Dame Faustina. Quelle belle devise pour cette deuxième semaine des Chapadas das Veredas.
De mère nature, la clameur pour la vie, des Chapadas et des Grotas, la lutte et l'espoir de son peuple.
Vive le peuple, Grota Chapadero!
Le modèle de l'agriculture familiale, ces exploitations vivrières de petite taille, représentent plus de la moitié de l'alimentation au Brésil. La production se retrouve dans les marchés de producteurs, atteignant entre 16 et 44% de la population de la vallée du Jequitinhonha, selon une étude menée par l'Université fédérale du Minas Gerais. Au cœur du mode de vie des Quilombo et d'autres communautés traditionnelles, l'agriculture familiale ne suffit cependant pas toujours à leur assurer un revenu suffisant. Nombre mise en parallèle sur l'artisanat. Dans l'Alto Jequitinhonha, la céramique connaît une belle réussite.
Yes.
Eu conheci o da Lu.
Nossa, a Lu não tem nem um igual.
Ela não tem nem um igual. Ficou lindo, né?
Ai, que lindo.
Olha, esse? Patrick.
Olha.
Muito foto.
Belo.
Une dizaine de jeunes découvrent leurs œuvres après un atelier de céramique organisé par l'artisane Anisia Lima de Souza chez elle dans la communauté Poço d'Água. Les céramiques d'Anisia, beige, rosée, blanche et brique, représentant surtout des fleurs, emplissent les murs blancs de sa maison et décorent les arbres qui bordent sa terrasse. Un art traditionnel entièrement venu de la terre de la région qui constitue son revenu.
Cela fait 40 ou 44 ans que je pratique l'artisanat. J'ai commencé avec ma mère. Elle avait appris de sa propre mère. Et puis vers l'âge de 8 ans, j'ai fabriqué et vendu ma première petite pièce. C'était un petit poêle à bois. C'est une tradition, vous savez.
Aviez-vous déjà toutes ces couleurs ?
Nous avions principalement du blanc ainsi que cette couleur rosée qui vient de la terre avec laquelle nous travaillons. Elle avait un fini plus mat. Nous ne savions pas la préparer pour la rendre plus brillante. Nous avons découvert ensuite que si on prenait une terre contenant plus de sable, cela donne de la brillance. Nous expérimentons et puis nous découvrons des choses.
Génial, c'est cette activité qui vous permet de gagner votre vie.
Oui, et bien dans mon cas, nous faisons de l'agriculture et de l'artisanat. En agriculture, nous cultivons différentes choses destinées à notre consommation. L'artisanat nous permet, lui, de compléter nos revenus. On plante des fruits, des oranges, des bananes et également du maïs, des haricots rouges. Pendant la période des semailles, nous consacrons plus de temps au champ. Et quand ce n'est ni le moment de planter ni de cueillir, nous nous consacrons à l'artisanat.
Quelle est l'importance de l'artisanat ici, pour la région, son économie et son avenir ?
Je pense que c'est très important, car avant, les maris partaient toujours travailler ailleurs, ils migraient. Puis quand les artisanes se sont lancées, elles ont gagné en indépendance.
Beaucoup d'hommes ont cessé de migrer grâce à l'artisanat, car nous avons désormais une source de revenus. Ils peuvent donc travailler ici, même s'ils gagnent moins. Ils s'occupent des champs et parfois, ils aident même à l'artisanat.
Pensez-vous que ce mode de vie est menacé aujourd'hui? Ou bien qu'au contraire, il peut perdurer?
Je pense que beaucoup de jeunes ne veulent pas suivre cette voie,
mais il y en a malgré tout qui le veulent. Mes deux filles travaillent avec moi. Avant, elles travaillaient à l'extérieur. Puis, il y a quelques années, elles ont arrêté de travailler pour se consacrer à l'artisanat. Mon gendre aussi, il était employé dans une entreprise qui fournissait des services à Aperam, et maintenant, il est artisan. Ma nièce de 8 ans aussi dit qu'elle va être artisane.
L'artisanat doit être valorisé financièrement et reconnu comme une activité économique d'importance, m'explique Ducarmo Barbosa, présidente de l'association des artisanes de sa communauté Coqueiro Campo et coordinatrice du réseau des artisans de la vallée du Jequitinhonha.
Là, 25 ans atrás, ninguém imaginava que o artesanato
Il y a 25 ans, personne n'aurait imaginé que notre artisanat bénéficierait d'une telle visibilité. Aujourd'hui, il voyage aux quatre coins du Brésil. Le rôle de notre réseau, c'est de faire comprendre à l'artisan la valeur de son produit. J'ai visité la boutique Talk & Stock à Belo Horizonte. J'ai pas eu envie de travailler pour qu'ils vendent mes œuvres le triple de mon prix. J'ai appris que je dois me valoriser. Parfois, je vends 5 articles et je gagne autant que quelqu'un qui en a vendu 20. Je vends au bon prix. Il faut parler aux clients lorsqu'ils achètent une pièce. Ils sont si enthousiastes quand ils connaissent l'histoire d'une pièce. Ils savent qu'ils emportent chez eux quelque chose d'important. En quelque sorte, nous générons des revenus pour la municipalité. Les représentants des gouvernements n'ont pas conscience de l'ampleur des emplois que nous créons dans les communautés. Par exemple, j'ai une femme qui travaille pour moi comme femme de ménage, une autre qui fait des biscuits, un jeune homme qui prépare de l'argile et un autre qui m'apporte du bois de chauffage. Voyez le nombre de personnes à qui je donne du travail. Nous pourrions faire tout cela nous-mêmes, mais nous prendrions du retard dans nos commandes. Imaginez 47 artisanes qui génèrent tout cela. Imaginez les revenus que nous générons dans la communauté. Je parle de mon association, mais il y en a aussi à Minas Novas, à Campo Alegre, à Tourmaline. Tourmaline a 2 associations de céramique et 2 de tissage.
Dans l'Alto Jequitinhonha, la céramique est loin d'être la seule activité artisanale. La production de miel d'aroeira et de fleurs sauvages s'est par exemple structurée autour de la coopérative des apiculteurs de la vallée du Jequitinhonha, Apivage, qui regroupe près de 200 apiculteurs. Agriculture biologique, tissage ou encore confection de sous-vêtements, les initiatives se multiplient, parfois accompagnées par des organismes publics ou associatifs, offrant des cours et des équipements. L'enjeu pour les communautés et justement de pouvoir financer certains investissements. Tous les habitants ne souhaitent pas se tourner vers ces activités artisanales, que ce soit par choix personnel ou par crainte de revenus irréguliers ou trop faibles. Ces alternatives déconstruisent toutefois l'idée que le modèle des monocultures d'eucalyptus et des mines de lithium, qui déforestent et bénéficient souvent à des acteurs extérieurs, serait le seul avenir possible pour la région. L'artisane Ducarmo Barbosa tient à relativiser l'image de pauvreté associée à la vallée du Jequitinhonha.
Bien sûr, même aujourd'hui, beaucoup de gens rencontrent des difficultés. Pas la faim. On ne trouve pas de favelas. Car si l'on regarde les choses sous un autre angle, ce qu'on appelle souvent la richesse, ce ne sont que les pesticides. De grandes quantités de choses, certes, mais qui sont mauvaises pour la santé. Nous vivons dans un environnement bien plus riche que ce qu'on pourrait imaginer.
De nombreuses communautés traditionnelles du Cerrado vivent le même combat. Les Quilombos, les peuples autochtones, les casseuses de noix de coco babassou, ou encore les Gerazeiros, des communautés d'ascendance métissée, noire, autochtone et européenne, et j'en passe. Les situations sont extrêmement diverses. Certains vivent de grandes difficultés, avec un manque criant d'infrastructures et une espérance de vie plus courte que la moyenne brésilienne. Tous se trouvent en première ligne face à la déforestation. Déforester, que ce soit pour des champs ou des mines, implique souvent d'expulser des populations, au prix de conflits parfois mortels. Outre l'injustice sociale, s'ajoutant à l'historique de domination coloniale, cela condamne le Brésil à voir ses ressources naturelles s'épuiser, notamment l'eau, déjà menacée par le dérèglement climatique. Des enjeux similaires se retrouvent dans d'autres forêts du Brésil, l'Amazonie, le Pantanal, la Pampa ou encore la Mata Atlântica.
Brésil, les gardiens du Cerrado inventent un futur durable. Un reportage de Fanny Brunval avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Nous retrouvons notre invitée, Stéphanie Nasuti, maître de conférence à l'Université de Brasilia. Alors, dans sa conclusion, Fanny mentionnait d'autres communautés traditionnelles du Cerrado. C'est vrai qu'il n'y a pas que les Quilombo. Est-ce que vous voulez nous dire un mot justement de ces autres communautés, de ce qui les caractérise ?
Oui, bien sûr. Je pense que il faut bien se dire donc que le terme, on utilise au Brésil le terme de peuple et communauté traditionnelle, et ça regroupe vraiment une très très grande diversité. D'une part, on a les populations amérindiennes qu'on appelle ici indigenas, qui sont près de 300 ethnies. On a aussi les populations noires-marrons, donc les quilombolas, qui sont l'objet du reportage. Et on a aussi, ensuite, on en a parlé dans le reportage, en fait, toute une diversité de ce qu'on appelle donc des peuples et communautés traditionnelles, qui sont des communautés qui sont essentiellement rurales, qui maintiennent aujourd'hui encore un mode de vie différencié, de faible impact sur l'environnement, mais en fait qui affirment leur identité à partir d'une relation privilégiée avec, en général, une espèce naturelle. Donc par exemple, comme on en a parlé dans le reportage, la noix du palmier babassou, ou alors il y a des cueilleuses de fleurs. Donc parfois, elles s'affirment à partir d'une relation avec une espèce, parfois à partir d'une pratique spécifique, donc par exemple les pêcheurs artisanaux, ou alors avec un mode d'occupation particulier. Donc on a par exemple dans le Cerrado les communautés geraizeiras qui sont reconnues pour mettre en pâturage de l'élevage bovin, mais en fait leur pâturage est fait de façon collective. Donc c'est vraiment à partir de l'affirmation d'un caractère spécifique de leur mode de vie que ces communautés vont affirmer leur identité et s'affirmer aussi sur la scène politique. Et aujourd'hui, on a un décret au Brésil qui reconnaît 28 segments de communautés traditionnelles, même si ce n'est pas exhaustif. on en voit de temps en temps en fait des communautés qui ne sont pas reconnues par le décret, qui viennent affirmer également leurs différences. Donc on a vraiment une très grande diversité de peuples et communautés traditionnelles à l'échelle du Brésil. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que donc on a les populations amérindiennes et les populations quilombolas qui sont officiellement reconnues par l'État dans la Constitution, mais on a aussi toute cette myriade en fait de populations traditionnelles qui cherchent à se faire reconnaître également en termes de droits, en termes de reconnaissance juridique, en termes d'accès aux politiques publiques par l'État. Et ça, c'est vraiment, on a vraiment des situations extrêmement différenciées à l'échelle du pays.
Donc, ce qui fait la singularité des Quilombo, est-ce que c'est principalement leur histoire liée à l'esclavage ?
Oui, les Noirs-Marrons, c'est vraiment... Alors, on a d'une part une histoire très spécifique qui est liée à la mise en esclavage des populations. Et les Quilombolas, les Quilombos, sont issus de communautés qui soit se sont enfuies à l'époque coloniale, qui se sont enfuies des plantations et qui se sont organisées en communautés autonomes. Et c'est dans ce sens-là, en fait, qu'on entend dire dans le reportage, oui, on est en résistance historiquement. Il n'y a pas de façon plus nette de dire à l'État, on ne vous reconnaît pas comme nos maîtres. Donc c'est dans ce sens-là, en fait, que les communautés noires-marrons sont vraiment en résistance par l'occupation d'un territoire propre. Donc on a d'une part les communautés noires marron qui sont issues de la fuite, mais on a aussi en fait tout un ensemble de communautés qui se sont formées à la fin de la période esclavagiste et qui se sont en fait formées à partir de l'organisation des populations qui n'étaient plus esclaves mais qui devaient mettre en place un nouveau mode de vie. Et c'est justement en se regroupant et en formant des communautés que ces groupes sociaux en fait se sont consolidés et se sont aussi protégés. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à occuper de façon plus intense en fait un certain nombre de territoires dont une partie perdure jusqu'à aujourd'hui et qui, à partir de la constitution de 88, donc la dernière constitution du Brésil, qui a reconnu les quilomboles comme des sujets de droit, en fait, la constitution a aussi établi que ces populations devraient obtenir le droit à la propriété pleine de leur territoire.
Ce qui n'est pas du tout le cas.
Alors ça dépend. On a vraiment là encore des situations très différentes en fonction des régions, en fonction de la pression foncière souvent qui s'exerce sur ces territoires, sur ces espaces-là. C'est-à-dire que le fait que la Constitution reconnaisse le droit au territoire ne veut pas dire que automatiquement le droit est transformé en pratique. Et c'est là toute la question. C'est-à-dire qu'il a fallu donc près de 10 ans pour que le droit constitutionnel soit transformé en fait en décret qui dise ben voilà, ces territoires auxquels les populations ont droit, on va les leur attribuer à partir de telle et telle et telle et telle règle, ça va être telle institution qui va le faire. Donc il a fallu 10 ans pour faire ça. Donc là, 20 ans après, on a peut-être un dixième, un quinzième des communautés qui ont le droit d'obtenir la propriété de leurs terres, à qui vraiment ces territoires ont été transmis. Donc c'est un processus vraiment juridique très très long. Et puis bien sûr, c'est pas du tout pacifique parce que ces territoires, même si à une époque ils étaient sur des espaces qui étaient méprisés par le développement, et ben voilà, maintenant le développement arrive et c'est des territoires qui sont convoités aussi bien pour des projets d'expansion agricole que pour des projets d'extraction minière et même menacés par la spéculation immobilière et l'urbanisation. Donc c'est des situations complexes.
Oui, parce que si on revient au sol du Cerrado, ils sont au départ acides, plutôt ingrats. Et puis, ben, avec les engrais, les OGM, les systèmes d'irrigation artificielle, ils ont pu devenir productifs et sont donc devenus point d'intérêt.
Exactement, oui. Et le Cerrado, on dit souvent que le Cerrado, c'est le biome sacrifié du Brésil. Et c'est vrai que pendant longtemps, en fait, le Cerrado a été plutôt méconnu parce qu'il était dans l'ombre de son grand frère, en fait, de l'Amazonie. Parce que voilà, parce que c'est moins glamour, c'est moins spectaculaire, c'est le Cerrado, c'est une grande savane. Et il y a eu tout un imaginaire, en fait, qui a été créé autour du Cerrado comme un espace qui serait vide de personnes et vide d'intérêts écologiques et que du coup, on pourrait mettre au service du développement national. Donc sur la base de l'agriculture mécanisée et de l'industrialisation. Et en fait, d'une certaine manière, le Cerrado a pâti de la conservation de l'Amazonie, puisque à partir des années 70, on a eu beaucoup de fonds qui sont venus pour préserver la forêt amazonienne. Et du coup, l'État brésilien s'est senti un peu empêché, disons, de continuer son développement en Amazonie et se reporter sur le Cerrado.
Donc aujourd'hui, l'Amazonie est plus protégée. On entend un peu plus parler du Cerrado qu'avant, mais c'est encore très loin par rapport à l'Amazonie et il est bien moins protégé.
Oui, bien sûr, oui. Même d'une part à l'international et d'autre part au Brésil. Et il y a vraiment encore tout un travail en fait de politique, même de valorisation du Cerrado et de son affirmation en tant que biome d'intérêt aussi bien écologique que socio-culturel à faire. Et juste pour vous donner une idée, on dit que le Cerrado, c'est 5% de la biodiversité mondiale, donc c'est pas du tout négligeable. En termes de population traditionnelle, le Cerrado, c'est plus de 2600 communautés. On a près de 1000 communautés quilomboles qui sont recensées. On a 600 territoires amérindiens et tout autant de communautés de pêcheurs, de casseuses de babassou, de geraizeiros, de apanhadores, de flores sempre vivas, etc., etc. Donc il y a vraiment tout un travail en fait de reconnaissance et de valorisation à faire. Mais ça veut dire aussi que pour protéger le Cerrado, ça veut dire que le Brésil devrait aussi mettre en question son propre modèle de développement de richesse nationale, puisque ça, c'est vraiment un paradoxe au Brésil, c'est que même si les populations traditionnelles sont reconnues par la Constitution, même si le Brésil construit beaucoup son identité sur sa diversité culturelle, sur sa diversité sociale, sur sa diversité ethnique et raciale, en parallèle, on a vraiment un projet de développement qui est basé sur l'expansion territoriale, sur la monoculture, sur l'extraction minière. Et ça, pour faire ça, il faut s'étendre sur les territoires et sur des territoires qui sont souvent occupés par ces populations. Donc on a vraiment un vrai paradoxe à l'échelle nationale que pour l'instant, le Brésil a beaucoup de mal à gérer.
Et développement que le président Lula soutient, comment est-ce qu'il se positionne exactement? Parce qu'il est quand même plus favorable au Cerrado que son prédécesseur.
Il est plus favorable, effectivement, il est plus attentif, disons, aux demandes des populations. Enfin, c'est pas le même projet, en fait. C'est pas du tout le même projet national. Et le projet national de Lula, effectivement, prend en compte l'existence de ces populations et de ces territoires. Mais on est quand même sur un discours relativement ambigu, avec d'une part la délimitation, la démarcation de nouveaux territoires, ce qui effectivement n'est pas arrivé dans le gouvernement précédent. Mais en même temps, on a quand même des grands projets qui sont mis en place. On a des voies de chemin de fer, on a la mise en navigation de fleuves importants, qui sont aussi le berceau culturel et le berceau des territoires occupés par des populations. Et voilà, donc on reste quand même dans un engrenage, dans un environnement très contradictoire.
À la COP, Lula a défendu la création d'un fonds innovant pour rémunérer la préservation des forêts tropicales. Est-ce que ça, par exemple, ça pourrait avoir un effet positif?
Alors peut-être. Pour l'instant, on ne sait pas exactement à qui vont être destinés les fonds de ce nouveau fonds, justement. Donc ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, le fonds prévoit que 20% seront destinés aux populations amérindiennes, quilomboles et traditionnelles. Et encore, il y a des incertitudes sur est-ce que ça ira véritablement aux populations traditionnelles qui ne sont pas complètement reconnues encore. Donc ça reste à voir justement de quelle façon est-ce que ce fonds va remettre en question, disons, cet équilibre entre développement et protection des territoires traditionnels. Alors bien sûr, c'est pas un fonds qui est destiné à financer le développement, mais on a plusieurs politiques, on a plusieurs pratiques de protection environnementale qui sont possibles. Donc on se pose la question de jusqu'à quel point est-ce que ce sont les pratiques des populations traditionnelles qui seront privilégiées.
Alors il existe des labels de commerce équitable. Est-ce qu'ils peuvent avoir un rôle pour encourager justement les pratiques de ces communautés traditionnelles?
Alors oui, bien sûr, c'est important. Il y a effectivement un certain nombre de politiques publiques qui existent à l'échelle du Brésil qui valorisent la production faite à l'échelle des territoires. On a par exemple un label Quilombo, on a un label de bioéconomie, on a un certain nombre de choses qui existent. Mais je pense que c'est une des solutions, c'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est bien sûr toujours de proposer en fait des microcrédits, des structures en fait qui permettent aux communautés traditionnelles de développer leurs activités quelles qu'elles soient dans les territoires. Parce qu'on l'a entendu dans le reportage, effectivement, il y a toujours un besoin économique qui font que les gens sortent des territoires, ils vont en ville, ils vont passer du temps à la récolte de la canne, etc. Donc il y a toujours un moment où on a besoin de ressources monétaires. Donc il faut vraiment réfléchir à des solutions au-delà de la labellisation, c'est important, mais des solutions qui permettent en fait de mettre en valeur des circuits de commercialisation qui permettent d'intégrer de façon relativement régulière la production issue des communautés, aussi bien de la production comme de l'artisanat que la production agricole ou la production d'extractivisme.
Pour vous, en quoi est-ce que les modes de vie et territoires traditionnels sont-ils porteurs d'alternatives pour le futur?
Alors, il y a plusieurs dimensions, je pense. La première, c'est que les territoires traditionnels, ils s'appuient sur une logique territoriale, une logique foncière qui n'est pas du tout la logique du marché immobilier. Donc, on est souvent sur des territoires qui sont mis en valeur, qui sont utilisés de façon collective. Et cette collectivité, c'est la base en fait d'une organisation sociale qui se projette de façon commune vers un certain destin. Donc il y a vraiment le territoire en soi et vraiment le socle d'une organisation sociale, d'une relation spécifique à la collectivité. Donc en ce sens-là, je pense qu'on est vraiment sur un autre modèle que le modèle individuel, le modèle de la propriété particulière, de la propriété privée. Donc je pense que ça, c'est un élément intéressant pour alimenter notre imaginaire, si je puis dire. Mais également aussi en termes de valeurs en fait que ces territoires portent. Donc on est sur un autre système, on est sur une autre forme de relation à l'environnement, sur une autre forme de relation à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a bien entendu dans le reportage. En fait, toute cette dimension de l'attention, du caring, de l'attention à l'autre qui émerge en fait, qu'on ressent à l'écoute du reportage, on se rend bien compte que ce sont des éléments en fait qui sont porteur de la collectivité et de l'organisation sociale. Donc en ce sens-là aussi, je pense qu'on est sur une autre façon de faire société, je dirais. Et en troisième point, je pense qu'on est sur une autre forme de relation à la nature. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on entend souvent dans les communautés ici, c'est-à-dire que les communautés refusent d'utiliser le terme de ressources naturelles, parce que ressources, justement, on est toujours dans une logique de mercantilisation. Et c'est quelque chose qu'elle rejette. Donc il y a vraiment une relation de réciprocité vis-à-vis de la nature qui est développée et qui est le socle justement de l'organisation sociale et de la relation au territoire.
Fanny Brunwald ?
Oui, j'avais une question portant sur ce qu'apportent les communautés traditionnelles pour l'ensemble de la société brésilienne. Est-ce qu'il est possible de quantifier à long terme ce qu'ils apportent en protégeant finalement les ressources naturelles en comparaison des modèles de déforestation et de monoculture voilà, à grande échelle?
Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a un certain nombre d'études qui montrent justement l'importance aussi bien des territoires amérindiens, des territoires narmarons, des aires protégées et d'autres types de territoires face à l'avancée du déboisement. Donc là, on est sûr, on a vraiment des études qui démontrent que ce sont des boucliers vraiment à l'avancée des routes, de l'expansion urbaine. Donc ça, on est sûr de ce point de vue-là que ce sont vraiment des outils importants. Et puis après, je le redis, c'est une perspective importante pour la société, puisqu'on est à un moment de la société où on parle beaucoup de transition écologique, de transition sociale, de transition vers la durabilité, mais il faut bien pouvoir s'inspirer quelque part justement pour penser ces transitions. Et simplement la technologie, peut-être qu'on n'arrivera pas où on veut arriver simplement avec des possibilités technologiques. Donc c'est intéressant, c'est important de valoriser ces modes de vie parce que justement, ils alimentent notre imaginaire et ils nous montrent qu'on peut vivre autrement, pas forcément avec des moyens faramineux, mais simplement en ayant un rapport différencié à la terre, un rapport différencié à la nature, un rapport différencié à l'autre.
Merci Stéphanie Nazuti. Le grand reportage de cette semaine, Brésil, les gardiens du Cerrado inventent un futur durable, était signé Fanny Brunwald. Réalisation Annie Bro, à la technique Ludovic Auger, au web Caroline Beneteau. Documentation Timothée Fernandez-Lopez et Véronique Le Falaire. Ne vous privez pas de partager cette émission de la rédaction. Rendez-vous pour cela sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France.